France Inter. France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Voilà une étude qui inquiète tous ceux qui, en France, défendent une école publique forte et ambitieuse. Dans moins de 10 ans, à Paris, la moitié des collégiens pourraient être scolarisés dans le privé. C'est une étude de l'Institut des politiques publiques. De plus en plus d'élèves dans le privé et de moins en moins dans le public. On verra en quoi cela renforce la ségrégation scolaire, symbole d'inégalité sociale. Cette baisse de fréquentation à venir dans le public, elle s'explique aussi par le recul de la natalité depuis 2010. L'école publique voit ses effectifs diminuer, ses classes ferment, alors que le privé se débrouille pour maintenir sa capacité d'accueil. Et donc, c'est particulièrement vrai dans la capitale, où les naissances ont chuté de 32% entre 2010 et 2024. Et au-delà de ce contexte conjoncturel, qu'est-ce qui pousse les parents à inscrire leurs enfants dans le privé? On fera ce soir un état des lieux des écoles publiques et privées, et on se demandera comment des politiques publiques plus ambitieuses pourraient rééquilibrer ou pas la tendance. C'est donc le thème du Téléphone Sonne. J'attends vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000 ou bien via l'appli Radio France. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Avec un premier témoignage, Laura nous appelle de Paris. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
Vous êtes à l'antenne, on vous écoute.
Bonsoir, merci de prendre mon témoignage de parent d'un quartier populaire de Paris, celui de la Porte de Clichy dans le 17e arrondissement. Mon fils est entré en maternelle à l'école publique en bas de chez nous il y a 10 ans. Et depuis, je constate avec étonnement et tristesse l'évitement scolaire massif des familles au capital socio-culturel élevé, désolé pour le jargon. Évitement scolaire vers des écoles privées sous contrat, pour des raisons qui sont évidemment plus sociales que religieuses ou de niveau. Donc le matin de bonne heure, j'observe le balai des vélos cargo remplis d'enfants bien-nés, prenant le chemin des écoles privées sous contrat, tandis que l'école publique de la rue accueille surtout, et aussi bien qu'elle le peut, des enfants de familles défavorisées. Or, l'évitement scolaire nous entraîne dans une spirale infernale à Paris et dans toutes les grandes villes, un cercle vicieux dont il devient difficile de sortir. Et Porte de Clichy, dans mon quartier de tous les jours, nous sommes à deux doigts de l'apartheid scolaire et je pèse mes mots. Alors j'ai une suggestion à faire au ministre de l'Éducation nationale, en qui j'ai confiance. Il pourrait tout à fait réécrire à tous les parents de France, comme il l'a fait récemment, pour les inviter à se comporter en citoyens quand ils pensent à l'école de leurs enfants. C'est-à-dire à choisir cette école, bien sûr, en pensant au bien-être de leurs propres enfants, mais aussi en pensant à celui de tous les autres enfants et à la société. En tant que citoyens, nous acceptons de faire beaucoup de choses, de payer nos impôts, de respecter les limites de vitesse, etc. Alors, Laura, pourquoi ne pas laisser apprendre nos enfants avec leurs voisins du quartier, même s'ils sont d'un milieu social différent?
Merci. Alors, Laura, j'ai bien compris que vous étiez en train de lire un plaidoyer, on a compris l'essentiel et merci d'être venu le lire en partie sur France Inter dans le Téléphone Sonne, avec ce soir pour vous répondre trois invités: Agnès Van Zanten, qui est sociologue et directrice de recherche au CNRS, spécialiste des questions d'éducation, Marie-Laure Tirel, qui est secrétaire générale du CNAL, le Comité National d'Action Laïque. Vous êtes aussi délégué laïcité du syndicat enseignant UNSA. Et invité également David Descamps, qui est professeur de sciences économiques et sociales au lycée Federbe de Lille. Vous êtes également docteur en sociologie, chercheur associé à l'Université de Lille. Et on en parlera, vous êtes aussi le co-auteur d'une étude sur la ségrégation scolaire en France. Bonsoir à tous les trois. Agnès Van Zanten, je vais vous soumettre cette première intervention de notre auditrice qui habite dans un quartier populaire et qui note autour de Clichy une sorte d'évitement scolaire des familles, on va dire CSP+. Dites-nous, quelles sont les motivations des parents en général pour délaisser l'école publique au profit du privé ?
Alors, je voulais d'abord souligner qu'effectivement, c'est intéressant dans ce qu'est dit cette auditrice, du fait que ce ne sont pas comme il était question il y a quelques décennies auparavant, surtout des parents du pôle économique des classes supérieures qui évitent l'école publique, mais qu'aujourd'hui, ça se généralise et donc touche aussi le pôle culturel des classes supérieures et même des classes moyennes. Donc, effectivement, ça devient un phénomène plus massif. Mmh. Alors, effectivement, c'est lié à la peur des parents des effets produits par la concentration de certains publics, des milieux dits défavorisés, donc des classes populaires avec une forte population souvent issue de l'immigration. Alors les parents craignent à la fois souvent que cela baisse le niveau dans l'école, notamment autour de l'idée que les enseignants ne sont pas en mesure de bien gérer des classes hétérogènes avec plusieurs niveaux scolaires dans la même classe. Mmh. Également la peur des problèmes de socialisation de leurs enfants, des problèmes de discipline, parfois quelques problèmes de violence. Mais très souvent, il y a une telle crainte actuellement autour de la scolarisation que les parents tendent à majorer un certain nombre de phénomènes. Donc, ils sont très inquiets, à moindre difficulté, ils sont prêts à partir, notamment parce qu'à Paris et dans les grandes agglomérations, les parents ont aussi des très grandes ambitions pour leurs enfants et donc tout ce qui risque de compromettre leur devenir devient une cause de fuite vers un privé qui effectivement est accueillant, attractif aujourd'hui plus que jamais.
Une fuite vers le privé qui reste accueillant et attractif. Marie-Laure Tirel, je rappelle que vous êtes secrétaire générale du CNAL, le Comité national d'action laïque. Vous êtes également déléguée laïcité du syndicat enseignant UNSA. Où est-ce que les résultats scolaires sont les meilleurs, si on prend les catégories sociales similaires, dans le public ou dans le privé ?
Ben en fait, c'est quelque chose justement qui n'est pas suffisamment su par la majorité des parents. C'est que à milieu social équivalent, finalement, c'est l'école publique qui fait mieux réussir les élèves. Ça a été maintenant sorti par plusieurs études, notamment un rapport de l'OCDE de 2024. Donc, c'est pas issu du syndicat ou d'un élément, on va dire, qui peut être connoté. Là, c'est vraiment neutre. Et on a fait une étude, nous, l'année dernière, au CNAL, justement, avec la FCPE, sur ce choix des parents pour comprendre un petit peu pourquoi ils choisissaient davantage, parfois, le privé que le public. Et on a posé cette question-là, de savoir s'ils le connaissaient, cette donnée. Et finalement, on a 7 parents sur 10 qui nous disent ne pas savoir avoir cette information-là quant au choix de l'établissement. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment, enfin qui est pour nous primordial de dire, c'est que à milieu social égal, un élève qui sera scolarisé dans le public réussira mieux qu'un élève qui est scolarisé dans le privé. Ça s'explique par différentes manières en fait. Le fait notamment par exemple que les enseignants vont être mieux formés et ont un niveau plus élevé dans le public, avec notamment par exemple tous les personnels agrégés qui n'existent pas dans le privé, même s'il peut y avoir certains collègues qui sont détachés. Puisque le critère premier de choix dans le rapport IFOP qu'on a pu avoir l'année dernière, c'est justement la qualité d'enseignement qui est le critère déterminant pour le choix pour les parents de l'établissement scolaire.
À catégorie sociale similaire, hein. C'est bien le public donc qui a les meilleurs résultats scolaires, et c'est bien de le rappeler ce soir. David Descamps, vous mettez en évidence dans votre étude un indice de ségrégation scolaire qui varie selon les pays. Bah, je vous demande quel est celui de la France et sur quels critères et il repose.
Alors, j'imagine que vous faites référence en fait à l'indice d'homogénéité sociale ou d'hétérogénéité sociale que j'utilise et qui constitue, donc dans mon étude que je mène avec Martin Siloré, qui constitue l'écart type des indices d'opposition sociale. L'indice d'opposition sociale étant un indice quantitatif qui vise à refléter le milieu social auquel appartient un élève. Un indice quantitatif bas en fait traduit le fait qu'il appartient à un milieu social, culturel et économique plutôt défavorisé, et un indice d'opposition sociale élevé quantitativement signifie qu'il appartient à un milieu social qui est culturellement favorisé. Donc typiquement, d'un côté, ça va être des enfants d'ouvriers, d'employés, et de l'autre, des enfants de cadres et d'enseignants. Et ce que l'on constate, c'est que dans les établissements privés, on a tout à la fois, en fait, majoritairement donc des élèves qui sont socialement plus favorisés que dans le public et qui sont par ailleurs socialement beaucoup plus homogènes les uns avec les autres. Donc, pour le dire autrement, où la mixité sociale est faible. À l'inverse, donc, dans le public, on a donc des élèves qui ont un indice de position sociale inférieur, donc en moyenne, à celui que l'on observe dans le privé, et où on a parallèlement une hétérogénéité sociale qui est plus forte, tout en sachant que parmi les établissements privés, on a des établissements privés extrêmement favorisés, où l'hétérogénéité sociale est quasiment inexistante. On a une très très forte donc homogénéité sociale avec une population qui est extrêmement favorisée socialement. Et à l'inverse, donc dans le public, on a donc des ce qu'on peut appeler des établissements entre guillemets ghetto, où on retrouve là à l'inverse donc des élèves qui sont issus de milieux sociaux très défavorisés et qui vivent aussi un entre-soi, mais cette fois-ci donc un entre-soi subi.
Merci de ces précisions. On va retourner au standard de France Inter, 01 45 24 7000. Véronique nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonsoir Véronique.
Bonsoir, merci de prendre ma petite intervention. Bah justement, je voulais vous parler de l'IPS, hein, cet indice de position sociale. Je suis dans une commune petite de 20 000 habitants, zone urbaine. Donc sur notre commune, il y a 4 écoles publiques et une grosse école privée. Chacune des écoles publiques compte environ 250 à 300 enfants. Donc dans l'école où je suis, notre indice de position sociale est de 98, sachant que la moyenne nationale est 106. Et donc à l'école privée, qui se trouve à 200 mètres à peu près de l'école où je travaille, l'indice l'IPS est de 118. Donc 20 points quand même de différence entre les deux écoles qui sont vraiment très très proches. Donc les gens qui vont dans ces écoles sont à peu près globalement du même milieu social. Donc en fait, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que à l'école publique, les enseignants à l'école publique sous contrat, hein, parce qu'on a aussi des écoles publiques hors contrat sur notre secteur, mais bon, ça c'est totalement différent. Mais l'école publique sous contrat, les enseignants sont payés par l'État, donc par les impôts sur le revenu des gens. Au niveau de l'école maternelle, moi je suis dans une école maternelle, donc c'est ce que je connais le mieux. La commune doit contribuer à la même hauteur à l'école publique et à l'école privée concernant l'encadrement des ATSEM, donc les personnels, les dames de service.
Je demande de ne pas mettre trop de sigles parce que l'auditeur ne va plus s'y retrouver.
Alors les dames de service, hein, oui, qui sont là pour assister les maîtresses à l'école, donc là il faut vraiment payer ces personnes-là, mais il faut également payer les produits d'entretien, etc. Lorsqu'il n'y a pas de piscine qui touche l'école, la mairie paye le bus. Et donc sur notre commune, alors ça c'est tout à fait légal, hein, c'est le préfet qui décide ça sur notre secteur. La commune contribue à 1 000 euros par enfant de maternelle et par an. Et là, nous, il se trouve que dans notre école, on a un petit problème de dortoir qui n'est pas bien isolé. Et ça fait 6 ans que je suis dans cette école et je demande à ce qu'il y ait une isolation de ce dortoir. Et il y a 2 ans, le responsable des services éducation de la commune m'a dit « Je suis désolée, mais cette année, j'ai dû donner 20 000 euros de plus à l'école privée parce qu'ils avaient 20 enfants de maternelle de plus que d'habitude. » Et donc, du coup, bah, votre dortoir, vous allez le garder à 15 l'hiver et 35 l'été.
Merci.
Voilà. Donc, on paye nos impôts sur revenus, payent les enseignants, nos impôts locaux payent le personnel et le matériel, etc. Donc, où est la, quel est le côté privé dans tout ça? Puisqu'en fait, tout est déjà payé par la collectivité.
Merci beaucoup de ce témoignage. Je vais le soumettre à Marie-Laure Tirel, qui est secrétaire générale du CNAL, le Comité National d'Action Laïque. Je fais référence d'ailleurs à cette enquête qui dit que moins d'un Français sur deux, 48%, trouve normal que l'État finance l'enseignement privé, et 42% pensent que c'est aux familles qui s'y inscrivent d'en assumer le coût. Marie-Laure Tirel, l'État a-t-il encore les moyens d'assumer une grande partie du financement des écoles privées ?
Oui, et j'ajoute juste un chiffre, c'est que 28% des parents d'élèves trouvent qu'il est normal que l'État finance l'enseignement privé. Mmh. Et c'était 53% en 1983. Donc vous voyez qu'il y a un délitement sur cette question. Et donc je voulais rebondir parce que effectivement on a aujourd'hui comme l'a dit très bien le collègue une ségrégation sociale qui s'opère et qui s'accroît surtout entre le public et le privé, et on a aujourd'hui un financement de l'État qui est très important puisque la Cour des comptes en 2023 avait annoncé qu'il y avait plus de 10 milliards d'euros par an qui étaient alloués aux établissements privés sous contrat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet sur ce financement, sur le financement des collectivités territoriales et les choix qui sont faits, mais les choix aussi qui sont imposés aux collectivités par les réglementations qui ont été croissantes sur le sujet du financement du privé, avec depuis 1959 la loi Debré jusqu'à, on va dire, 2019 avec la loi Blanquer, qui justement oblige le financement des écoles maternelles. On a finalement un accroissement de ce financement public pour le privé et avec en parallèle une ségrégation sociale qui s'est accrue également. Et donc on peut vraiment se poser la question des choix politiques, et c'est ce que nous on a dénoncé à travers notre travail et notre enquête de l'année dernière. Quels choix politiques aujourd'hui doit-on faire à l'heure actuelle pour résorber ces inégalités sociales et scolaires qui aujourd'hui, finalement, enfin, on voit bien avec l'étude de l'IPP, sont croissantes, et que va-t-on faire pour permettre que les parents choisissent l'école publique, parce que on a aussi dans notre étude pu voir que 57% des parents sont empêchés de choisir l'école publique pour différentes raisons aussi que je pourrais éventuellement développer.
On va les développer tout à l'heure. Agnès Van Zanten, je rappelle que vous êtes sociologue et directrice de recherche au CNRS, spécialiste des questions d'éducation. Parmi les préconisations de l'Institut des politiques publiques, parmi les pistes de rééquilibrage pour revaloriser l'école publique, certains préconisent notamment l'abrogation des aides publiques aux écoles privées. C'est par exemple ce qu'écrit aussi le Conseil d'analyse économique, qui propose de réduire la part du financement public du privé de 75 à 50%. Est-ce une piste intéressante à vos yeux ?
Je pense qu'il faut, c'est une piste bien évidemment possible, et je pense qu'elle est tout à fait sérieuse et à prendre en considération. Je pense que c'est simplement sur quoi on indexe un tout petit peu, comment on justifie les différences de financement. Et je pense qu'effectivement, comme on vient de l'évoquer, un facteur très important concerne les degrés d'hétérogénéité dans les écoles. Mmh. Et donc, je pense qu'il est par exemple tout à fait logique qu'actuellement, on considère qu'on finance davantage les écoles dans lesquelles le public est plus hétérogène, puisque l'on sait que ça requiert des efforts plus importants et qu'il serait absolument nécessaire qu'il y ait un personnel plus important qui prenne en charge les difficultés, qui puisse faire des dédoublements de classes pour les enseignants, pour mieux gérer l'hétérogénéité, de prendre en charge particulièrement quelques élèves en difficulté. Donc c'est plutôt calculer le financement en tenant compte de l'indice d'hétérogénéité, et donc de ce point de vue intérêt aussi des travaux quantitatifs qui mesurent cela. Et cela a été avancé également du fait de calculer également les financements en fonction des progressions que font les établissements en matière de mixité. Et donc, cela devrait s'appliquer également au privé, étant entendu que cela demande un travail très fin, parce que les établissements ne sont pas tous dans la même configuration, mais l'on peut calculer cela et on peut indexer le financement par rapport à ces dimensions-là.
À l'index de mixité, donc.
Voilà, et donc aujourd'hui, on a beaucoup des travaux qui nous montrent qu'effectivement, la ségrégation scolaire a des effets très profonds à la fois sur les résultats scolaires des enfants, mais également sur tous les processus d'intégration, sur tous les processus de sociabilité entre enfants. Et donc, effectivement, on a aujourd'hui vraiment une évidence empirique suffisamment importante pour pouvoir fonder et puis des données statistiques, y compris produites aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale, avec l'IPS, qui nous permettrait tout à fait d'indexer les financements à ces données-là.
L'IPS, l'indice de position sociale. David Descamps, je rappelle que vous êtes professeur et co-auteur d'une étude sur la ségrégation scolaire en France. Que vous préconisez dans votre étude pour limiter cette ségrégation, c'est de limiter les sources de différenciation interne au système scolaire. Je vous demandais d'expliquer ça. Ça passerait par quoi ?
Limiter les sources de différenciation interne au système scolaire, c'est offrir une scolarité qui est beaucoup plus homogène pour les élèves. On a un système scolaire qui offre très largement la possibilité aux établissements d'offrir des options diverses, de mettre en valeur en fait une spécificité, et c'est d'ailleurs quelque chose qui n'est pas propre là pour le coup au privé. En fait, d'une certaine manière, il peut y avoir donc des orientations académiques qui sont données et qui visent à présenter en fait chaque établissement, on va dire, sous un certain jour. Mais disons que le problème essentiel que cela crée, c'est que ça crée ce qu'on appelle parfois en fait en sociologie des quasi-marchés scolaires, voire des marchés scolaires. Donc, une mise en concurrence des établissements scolaires, en sachant que certains vont donc de ce fait devenir très attractifs et d'autres vont être des établissements beaucoup plus répulsifs, d'une certaine manière. Et ce qu'on constate en fait avec justement cette hétérogénéité de l'offre de formation dans les établissements scolaires, eh bien c'est un jeu concurrentiel qui peut bénéficier à différents établissements scolaires. Bien évidemment, parfois le public, lorsqu'il parvient à présenter une offre entre guillemets dite attractive, mais parfois aussi bien évidemment le privé qui dispose bien pour le coup en lien avec son caractère autonome de davantage de marge de manœuvre d'une certaine manière pour mettre en évidence justement des spécificités pour entre guillemets se vendre. Et ce qui est certain, c'est que ça crée d'une certaine manière un dualisme scolaire beaucoup plus fort entre le public et le privé.
Ce dualisme, on va en parler avec notre futur auditeur. Barthélémy nous appelle de Bretagne. Bonsoir Barthélémy.
Bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Merci de prendre mon témoignage. Moi, je suis enseignant en Bretagne dans un collège de l'éducation prioritaire. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a parfois des élèves qui nous arrivent en quatrième, en troisième, qui ont été pas exclus du privé, parce que le privé n'exclut pas, mais on leur fait comprendre qu'il faut pas rester ou on refuse de les réinscrire, c'est ce que disent les parents. Hein. Et on a même un élève qui est parti de notre collège parce qu'il trouvait que le privé c'était mieux, puis au bout de quelques mois, il nous est revenu. Donc en fait, je trouve ça assez... Il n'y a pas de mixité, le privé choisit ses élèves, donc c'est assez facile d'avoir des bons résultats quand on n'accepte pas les élèves plus faibles. C'est le premier point. Et le deuxième point de mon témoignage, c'est que ce que je voulais dire, c'est que dans mon collège, on a... C'est un collège de REP, mais avec une très très grande mixité sociale et des élèves favorisés également. Et ceux-là ne s'en sortent pas plus mal que dans les autres collèges de la ville où j'habite, où il y a des collèges plus réputé en quelque sorte, mais en fait quand on regarde les chiffres, les résultats ne sont pas meilleurs dans les autres collèges.
Collège en REP, ça veut dire en réseau éducation prioritaire. Marie-Laure Tirel, secrétaire générale du Comité national d'action publique, ce qui pousse les familles vers le privé, ce serait aussi l'orientation pour bénéficier d'une formation qui n'est pas proposée dans le public. Je pense par exemple aux formations professionnelles.
Oui, exactement. C'est justement l'un des critères finalement qui nous est revenu beaucoup en témoignage sur l'obligation finalement pour beaucoup de parents de scolariser leur enfant dans le privé plutôt que dans le public, alors qu'ils auraient préféré le public. C'est justement le choix de l'offre de formation professionnelle qui est parfois donc sur certaines académies, notamment effectivement en Bretagne et aussi toute la région de Loire-Atlantique, de Vendée, etc., où le privé est assez important, hein, et où il y a donc une alors je mets toujours entre guillemets une complémentarité qui est allouée entre les formations du public et du privé, et où finalement le choix pour les parents il est contraint puisque il n'existe pas de choix. C'est soit on met son enfant, enfin on demande l'orientation dans le bac pro ou dans le CAP qui est sur le lycée professionnel privé, soit finalement on doit choisir une autre orientation, ou alors il faut effectivement demander un internat, donc faire beaucoup de routes et qui n'est pas forcément en plus pris en charge, l'internat qui n'est pas toujours non plus existant dans les établissements publics et qui peut l'être dans les établissements privés. Enfin, vous voyez que la contrainte pour les parents finalement elle est importante, notamment sur ce sujet-là, et parfois on a aussi beaucoup de communes dans cette région où il n'y a pas d'école publique et il n'y a que des écoles privées. Ouais. Et donc là également, la difficulté forcément pour les familles de faire un choix, et bien il n'existe pas.
Mais on va aller au standard, pas mal de questions hein, ce soir sur le débat public-privé pour les écoles. Adélaïde nous appelle de Saint-Étienne. Bonsoir Adélaïde.
Oui, bonsoir France.
Vous êtes à l'antenne, avec plaisir.
Oui. Alors, moi, je voulais témoigner parce que nous étions sur Lyon et nous étions dans le public. Et il a fallu que nous déménagions sur Saint-Étienne pour le travail. Et donc, on a cherché naturellement dans le public en priorité. On a fait toutes les inscriptions, mais ensuite, comme on déménageait en cours d'année, on a quatre enfants. Donc, sur nos quatre enfants, il y en avait qui étaient un peu perturbés de ce changement de classe, de copains, de maîtresse, tout ça. Et on a essayé de pouvoir visiter l'école, les écoles publiques, sur un mercredi en semaine, avant qu'on arrive à Saint-Étienne, et ça a été absolument impossible, sur aucune. Alors à l'époque, il n'y avait que deux écoles, ils étaient encore répartis que sur deux écoles, et donc ça a été impossible. Donc ça a été le premier point négatif par rapport au privé, où on a pu visiter absolument n'importe quand, c'était, il n'y avait aucun souci. Le deuxième chose, c'est que le privé permet d'avoir des groupes scolaires, alors que c'est vrai que travaillant à temps plein, mon mari et moi, c'est beaucoup plus simple de récupérer les enfants sur un seul point que sur trois établissements. Et puis la dernière chose, c'est que n'ayant pas de famille autour, on était quand même bien contents de ne pas avoir des grèves régulières que nous avions. On avait quand même beaucoup souffert de cela sur Lyon. Et on avait la garantie, n'ayant pas d'entourage, d'avoir une vie professionnelle un peu plus sereine. Donc c'était pas du tout sur des enjeux soit d'options, parce qu'en fait, par exemple, le public à Lyon offrait énormément d'options, plus qu'en fait le privé à Saint-Étienne, là où sont nos enfants. Il y a une très grosse mixité dans l'établissement privé de nos enfants, parce que c'est un petit établissement dans un quartier où il y a beaucoup de mixité, c'est comme ça, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et donc on n'a pas fait des choix sur ça ou sur un niveau scolaire quelconque, mais uniquement parce que entre l'accueil et le côté pratique en tant que parent qui travaille, c'était la meilleure solution pour nous.
Merci de ce témoignage, je vais le soumettre à Agnès Van Zanten, qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS et spécialiste des questions d'éducation. Madame Van Zanten, l'école privée sait se rendre plus attractive, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, que l'école publique ?
Oui, elle a certaines caractéristiques qui la rendent attractive, et donc cette auditrice a effectivement mentionné certaines qui sont tout à fait importantes aux yeux des parents. Cette idée des groupes scolaires, par exemple le fait que les établissements privés ont conservé le droit d'être des institutions quasi totales, parfois depuis la maternelle jusqu'au lycée.
De regrouper plusieurs âges, plusieurs générations de la maternelle jusqu'au lycée.
Et donc pour les parents, c'est effectivement beaucoup plus facile en se disant, mais voilà, j'ai réglé la question, je suis dans un établissement qui me convient, il va rester là tout le temps. Alors que dans le public, effectivement, il faut choisir, il faut se dire dans quel collège il ira après, dans quel lycée il aura après. Et c'est vrai que pour les parents, ça paraît comme un avantage compétitif du privé. Les grèves, c'est effectivement un élément qui est très souvent mentionné. Il y a effectivement l'idée qu'il y a un absentéisme plus important dans le public, et ça va souvent de pair avec l'idée que les parents sont sensibles, que notamment dans les zones en difficulté, dans les ZEP, il y a plus de mobilité enseignante, et donc ça aussi c'est un argument pour les parents de la stabilité du corps enseignant dans le privé. Et par ailleurs, pour revenir au premier argument que mentionnait cette auditrice, effectivement les établissements privés fonctionnent vis-à-vis des clients, donc ils sont beaucoup plus accueillants. Par exemple, vont permettre des visites de l'établissement. La tradition dans les établissements publics, c'est de traiter effectivement les usagers plutôt comme des administrés. Et donc, on ne va pas effectivement ouvrir l'établissement aux parents. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement que l'école publique elle-même réfléchisse à ces modes d'interaction avec les familles, non pas nécessairement pour permettre tout le temps les visites, parce que ça perturbe beaucoup, bien sûr, les établissements s'il n'y a pas un personnel qui peut prendre ça en charge, mais plutôt pour parler, expliquer comment fonctionne l'établissement vis-à-vis des parents inquiets. Je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus important que l'école publique s'ouvre et parle aux familles, et sans nier les problèmes qui peuvent exister, mais en discutant vraiment, en présentant les problèmes et les questions et en faisant participer les parents aussi davantage à la vie de l'école.
Marie-Laure Tirel, vous êtes la déléguée laïcité du syndicat enseignant UNSA. On a régulièrement entendu, là encore un peu avec le témoignage de cette auditrice, les parents dénoncer dans le public, par exemple, le non-remplacement des professeurs absents. Ça joue, hein, ça, au moment de choisir entre le public et le privé.
Oui, alors bien sûr, c'est aussi un critère qu'on avait dans notre sondage. Alors ça vient quand même pas dans les premiers critères, mais ça vient un petit peu derrière par rapport à tout ce que vient de dire Madame Van Zouten. On est tout à fait d'accord, et effectivement c'était des préconisations aussi qu'on avait émises suite à notre rapport justement sur la communication dans le public. Mais je voulais rebondir aussi sur la direction d'école, puisque vous disiez que les directeurs le mercredi pouvaient pas forcément être disponibles. Il faut savoir aussi que les directeurs d'école dans le public, souvent le mercredi, ont des réunions qui leur sont imposées par les inspecteurs, etc. Et donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément disponible, on n'est pas forcément chez nous. On est aussi en formation sur ces jours-là, et c'est vrai que c'est pas forcément su, mais c'est important. Et c'est vrai que c'est difficile pour les directeurs d'école d'avoir du temps, parce qu'ils ont aussi leur classe pour beaucoup d'entre eux, et donc c'est pas forcément toujours facile pour eux de se accorder du temps pour les familles, alors que dans le privé, c'est un système différent, où il y a dans les groupes scolaires, comme vous le disiez, beaucoup plus de monde, et il peut y avoir quelqu'un, par exemple, du collège qui va faire visiter l'ensemble de l'établissement. Je voulais aussi dire qu'il y avait une possibilité, une marge d'adaptabilité par le privé, parce que ils ont un budget qui est interdegré. Donc c'est beaucoup plus facile aussi pour eux de mettre des moyens selon s'ils ont des besoins sur le premier ou le second degré, ce qui leur apporte aussi une plus grande marge par rapport au public. Et enfin, sur les grèves, je voulais aussi rebondir là-dessus, c'est qu'il faut savoir que les enseignants du privé sont recrutés par les chefs d'établissement et qu'il peut y avoir des pressions possibles pour justement qu'il n'y ait pas de grève, ou en tout cas pour justement maintenir l'image de marque de l'établissement. Donc voilà, c'est, il faut le savoir aussi, c'est que il y a des différences entre le public et le privé sur ces différents éléments.
David Descamps, professeur de sciences économiques et sociales au lycée Federbe de Lille, vous êtes aussi docteur en sociologie, chercheur associé à l'université de Lille. Le collège a été plusieurs fois réformé, je pense aux réformes Abi en 75, et puis plus près de nous en 2015, Najat Vallaud-Belkacem voulait revaloriser les savoirs fondamentaux de chaque élève, disait-elle. Est-ce que la dernière réforme du collège en 2015, est-ce qu'elle a au moins favorisé la mixité sociale ?
Je vais pas m'avancer particulièrement, on va dire, sur cet élément. Je sais que dans l'ensemble, les statistiques montrent que la mixité sociale n'est pas quelque chose qui se développe particulièrement, quel que soit d'ailleurs le niveau de scolarité. Spécifiquement en lien avec cette réforme, je serais incapable, là pour le coup, de vous répondre. En revanche, c'est sûr, on a un système scolaire qui est de plus en plus hétérogène et de plus en plus clivé entre notamment, moi je dirais, établissement public, établissement privé. Et il apparaît important en fait de lutter contre les sources premières du clivage, parce que, enfin, moi ce qui me semble important tout de même à évoquer, c'est que la mixité sociale, c'est quelque chose en fait qui est positif du point de vue des performances d'un système scolaire, Et c'est aussi quelque chose qui est positif du point de vue de l'équité. Lorsqu'on s'intéresse, pour le coup, aux études qui sont menées à l'échelle internationale, on observe que plus un système scolaire et garantit la mixité sociale, plus les performances de ce système scolaire sont élevées. D'autre part, ce qu'on constate aussi, c'est que plus la mixité sociale est garantie, moins il y a un lien qui est fort entre l'origine sociale et les résultats scolaires des élèves. Or, l'article 111-1 du Code de l'éducation insiste sur le rôle fondamental du système scolaire de garantir la mixité sociale. Avec un système tel qu'on le connaît dual, entre public et privé, on ne peut pas justement, pour le coup, disposer d'un système scolaire qui soit à la fois efficace et à la fois garant de l'équité, de l'égalité des chances.
Il nous reste quelques secondes, je voudrais qu'on entende Jean-Christophe qui est dans le Gers. Bonsoir Jean-Christophe.
Oui, bonsoir.
Merci d'avoir patienté.
Merci, je vous en prie. Alors écoutez, moi j'enseigne dans le public et dans le privé, je suis fonctionnaire. Et je voudrais dire que le public est aussi victime un peu de lui-même. Il y a deux facteurs qui nuisent à la qualité de ses prestations et à ce que pourraient en bénéficier aussi bien les enseignants que les élèves et leurs parents. Le premier, c'est la bureaucratie et la lourdeur de structures comme par exemple le rectorat, qui est une espèce de grosse machine que personne ne connaît mais qui bride l'initiative. Le privé est plus agile, plus inventif, plus constructif, souvent. La deuxième chose, c'est que le privé est sans doute un peu moins idéologisé. Je pourrais vous montrer les mails que je reçois d'un syndicat dont le nom commence par C et qui finit par T, sur Gaza, sur la militarisation de l'école, sur la grossophobie.
Je vous presse un peu parce qu'il ne reste que quelques secondes. Et le troisième point.
Non, c'est les deux points.
Les deux points.
Un petit peu moins d'idéologie, un petit peu plus de pragmatisme, mais je suis sûr que ça irait beaucoup mieux.
Eh bien, merci de ce témoignage. On n'aura pas le commentaire de nos invités, nous n'avons plus le temps. Et je remercie, merci à tous les trois d'avoir répondu aux auditeurs de France Inter. Le téléphone sonne est terminé. Grand merci à la rédactrice en chef, Flore Catala, Benjamin Ducy, qui tous les deux m'ont aidé à préparer ce numéro, à la technique ce soir, Loïc Frapsos et Alix Barrois.